Nous sommes en compagnie de Bertrand Gaden, Elsa Godefroy de Montbine et Manuel Rusvida, qui partent à Pékin dans quelques jours, le 1er octobre, pour une résidence de 6 semaines à la Beijing Film Academy. Ils exposeront du 1er au 9 novembre au Beijing Today Art Museum. Alors avant d'aborder vos projets chinois, on va peut-être resituer le travail de chacun. Alors Bertrand Gaden, quels sont les fondements de votre démarche ?
Bonjour, c'est pas évident de parler des fondements très rapidement d'un travail artistique que je développe depuis plus de 10 ans. Toujours est-il que ce qui m'intéresse, c'est l'image photographique, l'image vidéographique. Et notamment à travers le principe de l'installation, de la projection de l'image, de son apparition, de sa disparition, de sa nature, de son immatérialité ou de sa matérialité. Et en prenant mes sources à partir d'éléments naturels, du monde issu du monde végétal, minéral, humain, par rapport aux éléments fondamentaux, l'air, l'eau, le feu, etc., etc. Donc ces éléments, moi je les pioche dans l'espace ou dans le territoire de la nature, plus ou moins domestiqué, hein. Ça peut être aussi bien dans le cadre de déambulation dans des montagnes, dans des lieux, disons, sauvages, que dans des lieux plutôt domestiqués, comme dans des parcs, dans des jardins, qui se trouvent dans la ville ou à la périphérie de la ville.
Et même dans la rue, tout simplement.
Oui, ou même dans la rue.
Est-ce qu'on peut dire que pour vous, la nature est un grand livre ?
Ben, oui, c'est une sorte d'univers encyclopédique qui nous renvoie, qui renvoie à notre monde, qui renvoie à notre fonctionnement, qui renvoie à l'humanité. Donc pour moi, c'est très intéressant d'en saisir des images en mouvement ou fixes, des images emblématiques que je recontextualise à travers des installations vidéo ou photographiques. En essayant d'établir un dialogue avec une réflexion par rapport à l'art, une réflexion par rapport à ce que nous sommes, qu'est-ce que nous pensons, comment on dialogue avec le monde, etc., etc., quoi. Donc, pour moi, c'est une sorte de recontextualisation de la pensée, un questionnement, essayer de tenter de poser des clés, sur notre rapport au monde.
Et donc un véritable questionnement philosophique à partir des images.
J'essaye de dépasser l'illustration même de l'apparition de l'image, ce qu'elle représente, en essayant d'établir un dialogue, si possible, philosophique ou esthétique ou spirituel.
Très bien. Alors Elsa Godefroy de Montbine, la même question sur les fondamentaux de votre travail, et évidemment avec la même difficulté de l'exercice en quelques minutes.
Je commencerai juste par dire que mon travail se situe dans le domaine de la performance, c'est-à-dire que je m'engage sur le terrain le plus possible en étant dans une proximité avec les personnes, avec les êtres, avec le lieu, dans une écoute et une observation attentive du contexte géographique et social et politique. Et cet engagement-là, il ne peut pas se faire sans générosité. Donc c'est à partir de là que peut commencer mon travail. Après, mon travail, c'est un frottement d'écriture entre plusieurs disciplines, entre la vidéo, la performance, la musique, le théâtre. Et c'est que, du coup, ce travail, c'est plutôt du côté de transdisciplinaire, en fait. Après, je choisis effectivement des espaces de travail dont la fonction sociale est importante. Par exemple, un chantier de bâtiment, un chantier de grosses œuvres du bâtiment, un hôpital psychiatrique, et plus récemment, une zone urbaine prioritaire, une zone sensible de la Bourgogne à Tourcoing. C'est pour ça que mon travail est aussi il est très ancré dans le réel, mais il y a toujours cette jointure entre documentaire et fiction, parce qu'évidemment je suis très intéressée par le cinéma. Je trouve que c'est vraiment un art total, parce qu'il peut se faire se rejoindre justement tous ces arts. Et il y a un travail de mise en scène, c'est-à-dire de mettre en relation et mettre ensemble et faire qu'on travaille ensemble.
C'est déjà pas mal.
Voilà.
C'est déjà pas mal comme question de fond. Et j'avais quand même une deuxième question pour faire suivre celle-ci. On a parlé de l'importance des êtres, des rapports avec les êtres. Vous avez coutume de dire que rester vivant, pour vous, c'est quelque chose d'important. Ça l'est peut-être pour nous tous, mais pour vous, quel est le plus ? Ce rester vivant, qu'est-ce que vous mettez derrière ça ?
Alors, comme évidemment la question qui me semble la plus cruciale, c'est la question effectivement de l'humanisme. C'est-à-dire que je me pose la question de notre identité, mais au sens plus large d'une identité humaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas une identité humaine où chacun effectivement pourrait se sentir plus humain ou, pour moi, c'est ça évidemment qui se rapproche le plus du fait d'être vivant. On est un être vivant parmi d'autres êtres vivants. Mais cette capacité humaine et cette force, il y a quelque chose, c'est une sorte d'une quête que j'essaye de traduire. Et parce que si on est plus vivant, on peut plus être projeté en tout cas vers le présent, enfin dans le présent vivant en fait, d'être attentif justement à tout ce qui est là devant nous.
Et vivant au-delà de toutes les différences.
Oui, oui, mais c'est sûr, mais je cherche surtout à... J'essaie de mettre ça en valeur dans mon travail, en fait, et qu'on puisse, en tout cas, sentir cette force-là dans ce travail. Alors, c'est très long. Moi, je suis une jeune artiste, j'ai encore beaucoup de chemin devant moi.
Mais voilà, il y a toute la vie pour y arriver. Mais justement, on a parlé de la performance. C'est quoi exactement la performance ?
Alors, je ne vais pas parler pendant 107 ans.
Non, on va peut-être pas faire un cours sur la performance. Mais...
Alors, la performance, en fait, c'est né dans les années 70, plutôt aux États-Unis. C'est un art qui a été plutôt politique au début. Qui a permis justement de mettre en jeu la question de la matérialité de l'art et qui a mis en doute cette question. Et c'est surtout un art qui fait se rejoindre plusieurs disciplines comme l'architecture, le théâtre, la musique et maintenant, malheureusement, on utilise ce terme très souvent et c'est même utilisé dans le langage d'entreprise. Donc, avant, il y a action, il y a happening, il y a performance. Voilà. L'important, c'est que c'est un acte qui est posé, qui est souvent réalisé en public, dans un temps donné, avec une contrainte de temps, avec un public ou pas de public. Parfois, c'est en différé. Mais où l'artiste en fait s'engage avec son corps comme médium privilégié.
Voilà, c'est ça le fond du propos, c'est l'aspect physique, c'est qu'on est engagé physiquement.
Voilà, exactement. Jusqu'à la prise de risque. Donc ça, je l'ai pas dit, mais dans mon travail, c'est vrai qu'il y a toujours cette prise de risque. Parce qu'à partir du moment où on est sur le terrain, on se confronte évidemment à un lieu et on peut aller très loin dans cette confrontation. Du coup, c'est pour ça que ça remet cette idée d'être vivant, en fait. Parce qu'effectivement, si on va jusqu'au bout, on peut...
L'un rejoint l'autre, mais voilà. Ça peut mal se terminer.
Ça commence bien.
Manuel Ruiz-Vida, les fondements de votre travail.
Bonjour.
De peinture, donc.
Donc depuis quelques années maintenant, je développe un travail de peinture qui est centré sur le paysage industriel et portuaire de notre région. Et mon intérêt porte principalement sur les chantiers navals, les hangars, les édifices, les ouvrages marqués par l'usure du temps et par l'attaque des éléments. Donc ce sont les strates et les stigmates du temps sur les bâtiments ou les objets qui m'inspirent. Donc avant de réaliser ces tableaux, je prends régulièrement des vues photographiques qui sont un point de départ de mon travail pour en quelque sorte saisir le déjà-là de la peinture, c'est-à-dire que ces photos sont des traces de ce qui m'a parlé en tant que peinture, donc ce qui est prétexte à réaliser des tableaux, donc à travers des mots comme matière, strate, usure, donc exclusivement à partir des choses qui me parlent picturalement, je réalise donc des tableaux qui sont très souvent de grand format. Donc à partir de ces photographies, finalement, peu à peu, lorsque je peins, j'oublie la photographie et je me concentre sur les champs de matière et sur l'action du tableau. Et j'essaie finalement de montrer au spectateur et de lire dans le tableau ce que la matière picturale elle tente de représenter en tant que matière, donc en tant qu'abstraction aussi, et aussi ce qu'elle tente de représenter en tant qu'image.
Mais en utilisant la photographie puis la peinture, vous mettez en abîme deux moments de temps, justement, deux passages du temps, parce que la photographie, on ne peut pas rêver mieux que comme médium que l'arrêt sur image d'un instant T, et vous reprenez ce temps sur votre toile. Donc vous jouez avec deux temps différents.
C'est ça, oui. C'est-à-dire que, en fait, la photographie la surface du papier photo est plate. Moi, à travers les couches successives, donc je travaille parfois sur entre un mois et six mois sur un tableau. Donc j'essaie d'en faire plusieurs en même temps. Et au bout d'un moment, il y a avec les ce qu'on appelle les repentirs ou les accidents, les insatisfactions de ce que je fais. Évidemment, je passe par mettre une série de couches jusqu'à ce qu'il y ait une épaisseur, donc des aspérités. Où en fait on voit la peinture, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on s'approche du tableau, on va y voir la matière, l'abstraction de la peinture, et au fur et à mesure qu'on recule, on va se rendre compte qu'apparaît l'image d'un édifice, d'un objet.
Et vous intégrez l'aléatoire aussi.
Tout à fait, oui. Donc parfois, je m'arrive de lever un tableau, puisque je travaille au sol ou sur le mur, et il y a une coulée où je décide de garder ou de supprimer.
Alors donc, vous allez partir en Chine dans quelques jours. Quel va être... peut-être, avant de parler de la démarche, on va tout simplement vous poser la question. Qu'est-ce que vous attendez de ce séjour en Chine?
Donc, pour moi, ça sera vraiment un regard sur une culture et sur un pays qui m'est totalement étranger. Donc, je compte tenter de rendre compte de l'évolution d'une ville qui peine à concilier le développement industriel et en même temps la réduction de la pollution, qui est un problème évidemment d'actualité, qui est fondamental également.
Oui, ça c'est sûr, on ne peut pas rêver mieux pour l'actualité. La pollution, vous allez avoir de quoi faire. L'attente pour Elsa Godefroy de Monbine de ce séjour en Chine, sachant qu'elle connaît déjà un peu la Chine.
Oui, j'y suis venue en 2006, mais je pense que les Jeux Olympiques ont beaucoup changé cette ville, énormément. Je pense que on va rentrer dans l'ère d'après-jeux. Je pense que ça va être un contexte très particulier, parce que il y a des personnes effectivement qui ont été déplacées au niveau des lieux, enfin de leur lieu de vie. Je crois qu'il y a vraiment un chamboulement très très fort. Et quelles sont les retombées exactement? Enfin, on va arriver là dans ce contexte. Et pour moi, je conçois en tout cas ce voyage comme une aventure, on va dire périlleuse. Parce que, évidemment, travailler autour du lieu de l'habitation, on va déjà se familiariser, en tout cas, avec tout ce qui est déplacement, géographie, espace, quoi. Je pense que ça va être assez délicat, parce que c'est énorme, quoi. C'est vraiment...
C'est 15 millions d'habitants.
Voilà, on sent la densité de la population, on sent cette énergie-là qui est vraiment très très forte, quoi, qu'on ne sent pas dans d'autres villes. À New York, par exemple, ça n'a rien à voir.
Ah, le mot énergie, si vous avez raison, c'est le...
C'est ça, il y a quelque chose de l'ordre de la compression, comme ça, qui est très fort. Et puis, je suis très heureuse, évidemment, de pouvoir rencontrer des Chinois, parce que je vais tenter de les filmer chez eux, sous la forme des entretiens que j'ai réalisés pour la pièce que je vais montrer donc à Pékin, Par amour des disparus. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire? Je ne sais pas. Voilà, ça, c'est le contexte. Et puis, j'aimerais bien partir donc à 80 km de Pékin. C'est une région à Huilai. je prononce très très mal. Enfin, en tout cas, c'est une ville qui a été rebaptisée Ville des Sables, parce qu'avant, c'était que des champs cultivés, fertiles, avec donc des agriculteurs qui vivaient de ce travail et qui ont dû quitter cette zone pour venir chercher du travail à Pékin parce que, évidemment, ça s'est transformé en désert. Donc il y a beaucoup de tournages qui se passent. Il peut arriver que si je vais là-bas, il y a un tournage, mais du coup, ça s'intégrera au film.
Tournage du tournage.
C'est exactement. La mise en abîme, ça aussi, ça fait partie de cette recherche aussi, de ma recherche. Et du coup, j'aimerais aussi rencontrer des musiciens, un musicien traditionnel chinois, parce que ça, en Chine, cette dimension entre la modernité et la tradition, mais c'est un espèce de grand écart, mais en même temps, ils arrivent à relier ça, et c'est vertigineux, quoi. Donc ça risque d'être très, très aigu, en fait, cette dimension-là. Et j'aimerais bien pouvoir la toucher du bout des ailes.
Eh bien, on espère. En tout cas, c'est le désert de Gobi qui descend aussi bas, ce me semble.
Je crois, parce qu'il y a même des tempêtes de sable qui arrivent sur la ville de Pékin, en fait. Donc c'est vrai que ça arrive très fréquemment, mais c'est vrai que c'est très intense. Et aussi, effectivement, de voir comment ça se passe le matin, parce que les Chinois sont très matinaux. Donc ça veut dire qu'il faut vivre au même rythme que les Chinois. Et ils sont beaucoup dans des pratiques collectives, d'art... Enfin, c'est pas des arts martiaux, mais c'est du tai chi chuan. Je sais pas, je vais pas m'engager dans ce terrain...
un peu mouvant.
Mouvant, mais ça aussi, c'est très très fort, cette identité collective humaine, elle est extrême en fait là-bas. Il y a même l'individualité, la notion d'individualité, et donc je pense que ça va être très fort, et ça va, je pense, moi j'attends de ce voyage, je me dis que je vais être transformée. Voilà.
Alors justement, vous avez évoqué Par amour des disparus, on n'a pas précisé exactement ce qu'était ce projet. Voilà, ce serait bien juste de le présenter en quelques mots.
En deux mots, c'est une installation vidéo sous la forme de deux écrans de 3 mètres par 2. C'est une recherche qui a duré un an et demi sur toute la région du Nord-Pas-de-Calais, sur la question de la condition humaine par rapport à la disparition, mais plus largement sur la question de l'humanisme, en fait. Donc c'est sous la forme d'entretien, c'est un portrait paysage. De la région du Nord-Pas-de-Calais, mais plus largement sur la question humaine.
Voilà. Alors en Chine, vous allez procéder comment ? Vous allez continuer ce projet, donc vous allez poser des questions aux gens, c'est comme ça que vous allez faire, comme ici ?
C'est comme ça que je vais faire, en sachant que dans ce projet, je suis aussi allée voir de manière périphérique sur cette thématique de disparition. Je suis allée donc dans un cimetière, j'ai organisé une visite, je suis allée au crématorium pour une cérémonie souvenir, parce que c'est très important le crématorium à côté des cimetières, enfin par rapport à l'écologie, l'environnement, il y a tout un nouvel, enfin c'est même gouvernemental, hein, c'est un projet de santé publique, quoi, presque. Et c'est vrai, hein, on est en France, hein, alors en Chine, c'est autre chose, mais et puis le salon international du funéraire. Donc en Chine, je veux déplacer ça en un mois, donc c'est vrai que c'est hyper concentré, parce que là j'ai mis plus d'un an, aller dans des endroits où ils font des objets pour les disparus,
les fameux objets en papier,
tout en papier, et après ils les brûlent pour les disparus, et puis les endroits effectivement de recueillement,
donc les temples,
voilà. Mais bon, après en ayant toujours cette distance, savoir par qui on est introduit, quoi. Il faut toujours un passeur dans ces cas-là, quoi. Il faut toujours un intermédiaire, quelqu'un qui est vraiment dans le lieu lui-même, quoi. C'est ça qui est délicat.
Mais c'est ça, vous n'allez pas planter votre micro en posant une question à quelqu'un qui va passer dans la rue.
Non.
C'est pas
non, je ne fais pas de la télévision.
Voilà, même sonore d'ailleurs. Alors, Bertrand Gaden, vous attendez quoi de ce séjour en Chine ?
C'est dans le prolongement de mes camarades. Hein. La Chine, on l'a dit tout à l'heure, est un grand pays, très peuplé, hein, 1,3 milliard de Chinois.
Et moi.
Voilà, je fais partie des 62 millions de Français, donc on est vraiment une goutte d'eau par rapport à ce grand pays, qui est en pleine effervescence, qui est en plein boom. On ne peut être qu'attiré, on peut s'interroger sur cet état, quoi, par ce territoire, par cette effervescence, notamment artistique, puisque actuellement la Chine est l'un des pôles primordial quand, par rapport à l'art contemporain. C'est le pôle actuel qui dépasse tous les autres lieux d'art contemporain qui existent sur cette planète, me semble-t-il. Donc ça m'intéresse de pouvoir rencontrer les professionnels, les galeristes, de visiter les musées d'art contemporain, de rencontrer les artistes, la multitude de lieux qui existent autour de Pékin en ce qui concerne les villages d'artistes, etc., etc. Donc il y a déjà de quoi faire. Et d'autre part, bon, évidemment, c'est moi faire le projet qui s'appelle La Chambre aux images, qui va se développer par rapport à tout ce qui est représentation de la nature, donc les parcs, les jardins, les zoos, dans Pékin ou à l'extérieur de Pékin, hein, qui va me servir pour...
Tiens, les zoos, ça me pose question. Je me demande s'il y en a en Chine. Je sais pas.
Il y en a un à Pékin, oui.
Mais j'ai vraiment jamais.
Oui, oui, si, zoo, si, oui, il y en a plusieurs. Hein,
je suis jamais allé à un zoo de Pékin. Ouais. C'est ben voilà, ce sera l'occasion. Comment vous allez travailler sur ce projet?
Moi, je suis un déambulateur. Hein, je suis un promeneur. Je suis un flâneur. Donc, en fonction de, je suis presque un paysagiste. Hein, donc je me promène et j'observe et il y a des éléments qui vont m'attirer plus que d'autres, qui vont donc que je vais photographier ou filmer, enfin surtout filmer, que je vais donc des fragments du monde naturel, hein, que je vais prélever et qui vont être une sorte de banque de données que je vais ensuite recontextualiser dans ce projet d'installation qui s'appelle la chambre aux images, hein, en essayant de recréer une mise en scène, en essayant de jouer sur les images, la nature des images, les sons. Enfin, de créer une sorte de dramaturgie, de narration, de fiction à travers cette future mise en scène. Donc, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mon but, c'est de donc, dans cette déambulation, dans ces visites, dans ces parcours, dans ces déplacements de territoire, en fonction du temps, en fonction de l'heure, hein, de la lumière, etc. Je vais me constituer une sorte de, voilà, de patrimoine, une banque d'images et de sons que je vais ensuite recontextualiser, que je vais ensuite retravailler, voilà, en fonction du projet final.
Donc l'environnement est important dans ce...
Bien sûr.
Vous allez rejoindre
la nature des images, oui, oui, la nature des éléments filmés, la nature des images, etc. Oui, bien sûr. Oui.
Alors on a parlé des parcs et jardins, mais on peut imaginer que vous pourrez rejoindre peut-être Elsa Godefroy de Montbine dans son désert, parce que c'est aussi un élément de nature.
Tout à fait,
nature.
Oui, à se donner rendez-vous à telle heure dans le désert. Voilà, oui, oui, une tempête de sable, oui, oui, oui. Bon, c'est, comment dire, j'aime filmer le vent, hein, j'aime filmer l'immatériel, donc peut-être que dans ce désert, il y a évidemment de quoi faire.
Oui, oui, on y va.
Si, par exemple, au niveau des parcs, pour travailler la nuit, tu ne pourras pas, en fait, tu seras obligé de tenir compte aussi des horaires de fermeture, parce que d'habitude, tu ne travailles pas forcément dans des espaces fermés comme ça.
Non, non, pas forcément, mais ça m'est arrivé de... Oui, oui, je travaille dans la nature aussi. Oui, oui,
mais c'est, normal, si c'est dans les parcs, par exemple, urbains, oui. On ne peut pas y accéder peut-être le soir.
Oui, oui,
et
tout à fait. Oui.
Et ça, ça te, tu y vas quand
même.
C'est
impondérable. De toute façon, voilà, il y aura des contraintes qui va évidemment rétrécir le champ des possibles. Hein. Une panne de batterie, un orage, une tempête, je ne sais pas. Ouais.
Bah, un typhon, là.
Un typhon.
Un gardien de parc.
Il y en a en ce moment.
Que sais-je, hein. Donc, bon, évidemment, comme vous, hein, on va être obligé de s'adapter aux circonstances, au contexte temporel, etc. Quoi, hein. Donc, tout est possible, tout est envisageable, mais évidemment, sur place, moi, je préfère pas trop préméditer exactement ce que je vais faire. Je préfère découvrir, qui est cette idée un petit peu de découvrir les lieux, quoi, les territoires, la géographie, les gens, rencontrer les gens. Parce que je pense que je vais aussi rencontrer des gens, des personnes, différentes personnes. Et puis aussi, bon, il y a le comment dire pendant, mais il y a aussi le après, dans le sens où j'aime également faire, par exemple, des installations, non pas forcément dans des lieux clos. J'aimerais bien aussi concevoir des projets par rapport à l'univers de la ville, par rapport à l'espace urbain de la ville. Donc,
Voilà. Je faisais une situ, quoi, que tu fabriquerais
voilà,
une situ.
Voilà, ouais. Voilà, c'est ça.
Bon, ceci était un dialogue entre Elsa et Bertrand. Manuel, une déambulation dans la ville aussi, évidemment.
Tout à fait, oui.
Avec un appareil photo.
Voilà, donc les photographies, je verrai par la suite, puisque ça sera, on va dire, 50% ou 40% du travail, puisque dès mon retour de Pékin, à partir de ces photographies, elles seront... Je pense que je vais en présenter en tant que photographie, mais certaines d'entre elles oui. me serviront pour réaliser. Donc c'est des,
comme d'habitude, des en fait. Bon, très bien. Alors, vous allez exposer au Beijing Today Art Museum, on l'a dit tout à l'heure. Et vous allez exposer quoi? Manuel, puisqu'il avait le micro. Manuel.
Donc je vais présenter entre 6 et 9 tableaux qui sont datés entre 2003 et 2007. Donc qui sont, à part un tableau, sont des grands formats, qui sont récipients...
Bon, on ne va pas tous les citer, voilà. Hein, c'est juste pour dire... Ce que, bon, évidemment, un peintre, on imagine qu'il va exposer des tableaux. Ça, c'est vrai que c'est plus facile. Alors, Elsa Godefroy de Montbine.
Moi, c'est l'installation Par un monde disparu. Donc c'est une installation vidéo sur deux écrans. Sauf que je souhaiterais en tout cas montrer une performance avec un musicien traditionnel et où je serai sans doute présente pendant cette performance. Donc ça va être préparé quand même parce que je vais devoir le rencontrer avant et sur place aussi et voir comment on peut au vernissage en fait après la projection de cette vidéo. Elle est continuée, c'est le continuum en fait, la continuité, la résonance en fait du film par l'idée d'une performance.
Alors à propos de vernissage, vous êtes tous invités évidemment le 1er novembre à 15h à Pékin au Beijing Today Art Museum. Alors Bertrand Gaden, vous allez exposer quoi lors de cette exposition?
Je vais exposer trois installations, trois vidéoprojections, l'une... qui est la projection d'un hibou géant projeté sur le mur, une sorte de confrontation entre l'animal, le bestiaire, enfin un fragment d'un bestiaire et le public. Une autre qui s'appelle la source, qui est une sorte de flux d'eau qui sort du sol et qui semble envahir le sol, et un souffleur de bulles, une sorte d'apparition d'un monde à images, d'un flacon à images.
Bon, tout ça, en tout cas, est extrêmement poétique comme façon, comme vision du monde. Et en tout cas, je conseille à tous ceux qui n'ont pas vu le hibou de Bertrand Gaden de se confronter au hibou, même en Chine. Alors, exposé au Today Art Museum, ça représente quoi pour vous trois? C'est votre première exposition, on l'a dit au tout début. Exposé dans un musée contemporain à Pékin.
Oui, c'est une chance.
Pour Bertrand, c'est une chance.
Oui, c'est une chance. Et puis, justement, c'est l'occasion à ce que des Français puissent montrer leur travail dans un musée, quand même important.
Et c'est rare.
Parce que ça, justement, c'est assez récemment, il y a eu un article là-dessus. Les artistes français sont peu représentés justement à l'étranger.
Et c'est une, et encore c'est, moins c'est,
mais
en
ça
Chine.
Fait longtemps, hein, parce que c'est comme s'il y a une espèce de peur, en fait, de manque de courage, qui fait que les artistes français n'ont pas véritablement leur place, en tout cas à l'étranger, dans niveau général, quoi. Donc là, c'est vrai que pour moi, c'est un honneur de pouvoir aussi partager avec Bertrand Gaden et Manuel Ruzvida, de pouvoir partager ensemble cette exposition, parce que du coup, en fait, voilà, c'est une belle évolution aussi dans un travail, de pouvoir participer à cette exposition.
Manuel?
Donc moi, c'est la possibilité aussi d'expliquer mon travail donc à une autre culture qui m'apporte le regard qu'ils peuvent avoir sur mon travail.
Bon, et bien sûr, on rappelle que cette résidence et cette exposition ont été possibles grâce à la ville de Lille. Enfin, je vais tous les oublier d'ailleurs, parce que je n'ai pas mon papier sous les yeux. Il y a la ville de Lille avec le centre d'art. Il y a la région Nord-Pas-de-Calais, il y a Culture France, il y a la DRAC. Il y a Lille Métropole Communauté Urbaine, j'espère que ma mémoire ne fait pas défaut. Dites-moi si j'en oublie. Et puis bien sûr, il y a aussi il y a Culture France, ça je l'ai déjà dit. Donc je peux le redire parce que c'est important, mais bon. Il y a aussi des soutiens, donc il y a le Frénois, Il y a Doublé, Voyageurs du Monde, X Consulting et bien sûr Radio Campus. Parfaitement, il y a Radio Campus Lille qui soutient ce projet.